Bonjour. Donc moi j'ai une question en fait à poser à Alain Gras, c'est-à-dire pour essayer d'être rapide. Comment éviter la tentation de la puissance? C'est-à-dire que en fait vous dites que effectivement on a toute la technique, c'est quand même de savoir comment s'émanciper du travail. Ça a été un vieux rêve de toutes les idées sociales du 19e. Donc effectivement on voit bien où ça conduit. Alors maintenant, comment ça s'est passé dans d'autres civilisations qui ont fait le choix de ne pas prendre le chemin technologique ou de l'oppression, disons, de la nature, mais par contre, avec peut-être l'oppression de l'humain. Mais c'est vraiment une question, c'est-à-dire, se libérer du travail, est-ce que c'est un bien ou pas? Et puis la deuxième, comment le faire en gardant peut-être une certaine morale, quoi.
Oui, je crois que c'est à vous tous, nous sommes là pour réfléchir à ça. Je ne peux vraiment pas répondre à une question de ce type. Justement, je ne suis pas là pour apporter des solutions, on est tous là pour essayer de réfléchir ensemble. Ce que je dois dire quand même, c'est que la machine qui a été présentée comme une libération de l'homme a été refusée par les esclaves, justement. Ceux qui n'ont pas voulu, les briseurs de machines, les ludites, qui ont eu une longue histoire en Angleterre, se sont opposés à la machine. Il y a eu des briseurs de machines en France. Il y a donc une histoire du mouvement ouvrier qu'on commence maintenant à connaître et qui était opposée à la machine. C'est le catéchisme officiel que nous connaissons, la machine libère l'homme. Et ce n'était pas du tout l'avis des esclaves qui étaient là, enfin de ceux qu'on considère comme des esclaves. Il y avait aussi une jouissance dans le travail artisanal, il y avait une jouissance dans le travail des corporations. Et ça, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Donc je pense que c'est d'abord la prison du travail comme punition dont il faut aussi peut-être échapper. C'est à la fois le travail a été rehaussé par le puritanisme, mais en même temps, nous avons continué à croire que le travail était une punition. Il y a une ambiguïté totale dans la manière dont on voit le travail aujourd'hui, qui est justement liée, je pense, à la technologie que nous utilisons, qui est une technologie qui, évidemment, a servi l'homme. Mais on peut très bien travailler avec une technologie qui, au contraire, nous libère. Repensons à une technologie libératrice. Celle de l'artisan, celle de la corporation, celle de celui qui crée librement comme un artiste. Mais quant à des solutions, je n'en ai évidemment pas.
Bonjour, j'ai une brève intervention à faire, mais est-ce que je pourrais demander à ceux qui ont la bonté de l'écouter de lever les yeux au plafond et à ce qui nous entoure, juste pour écouter les quelques mots que je vous propose. Dans l'esprit, bien évidemment, non pas d'apporter non plus une réponse, mais d'habiter peut-être un peu plus profondément, je ne sais pas, une question. S'il est d'accord, si on peut se mettre d'accord ensemble, qu'on est ici réellement pour, je ne sais pas, pour construire au présent le passé d'un avenir désirable, vous me suivez? Si on est réellement dans cette situation, je crois qu'il faut prendre conscience d'une globalité de la réalité dans laquelle on se trouve. Je pense qu'on peut être assez rapidement d'accord pour dire que notre civilisation, je dis bien notre civilisation et pas notre société, se trouve dans une impasse. J'aime mieux la métaphore du labyrinthe. Et effectivement, elle est forte dans la mesure où, on le sait, dans le labyrinthe mythologique, l'entrée et la sortie du labyrinthe sont le même. Et je suggère que nous questionnions, peut-être pas immédiatement, mais que ce soit une perspective de questionnement sur la décroissance, d'aller un petit peu plus loin sur l'origine de nos croyances de la civilisation occidentale. Et parmi ces croyances, je crois que je ferai remonter la volonté de puissance bien au-delà de ce que nous a dit Alain Gras tout à l'heure. Je ne peux pas m'empêcher, je sais qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, pour penser que ce qui caractérise notre civilisation, c'est sa science et sa religion. Si on ne fait pas le lien entre la science et la religion, et si on ne remonte pas à la nature profonde du monothéisme, à questionner, je dis bien, je pense qu'il nous manque un élément pour sortir du labyrinthe.
Michel Jean Lavaux, j'aurais simplement soumettre à votre réflexion, un constat que j'ai fait récemment dans un journal édité par le ministère de Jeunesse et Sport, qui précisait que les jeunes avaient des droits parce qu'ils participaient au développement. Et donc là, il y a, me semble-t-il, une posture assez étrange, à savoir qu'il s'agit des droits de l'homme, des valeurs et des droits de l'enfant qui sont sous-entendus, et une instrumentalisation, c'est-à-dire que les enfants auraient des droits avec en contrepartie la nécessité de participer à ce fameux développement dont on discute, alors que pour ceux qui sont assez qui sont penchés sur la question, les droits des enfants s'en sont contrepartie, c'est-à-dire que c'est ce droit-là qui leur permet de se construire.
C'est un peu ce que disait Paul Ariès quand il semblait redouter l'avènement de l'enfant-objet. Et moi, il me semble qu'on y est déjà largement, en fait.
On a des droits que si l'on montre patte blanche en acceptant des servitudes. En fait, c'est ça l'idée.
Bonjour, Michael. Alors, il est des constats et des réflexions qui parfois me fatiguent et m'empêchent d'agir. Mais ce que je viens d'entendre aujourd'hui, ça me remotive un petit peu. Et en tant qu'homme d'action, puisque avant d'être un ferveur défenseur de la non-violence, j'ai été militaire pendant 8 ans, en entendant tout cela, je me demandais si on pouvait lancer une campagne de boycott des fêtes de Noël ou des fêtes des mères. Mais je me remémore une action que j'ai déjà menée. Je suis allé le 30 janvier dernier porter plainte contre l'économie de marché au commissariat de ma ville. J'ai remis, déguisé en sous-commandant Marcos, une lettre au président de la République, lui expliquant que cette économie allait à l'encontre des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité que porte notre pays. Excusez-moi, je suis un peu ému. Et qu'il était peut-être temps de se pencher sur un concept d'économie non violente. Voilà, donc je suis prêt à réitérer cette action avec l'aide de tous ceux qui seront intéressés.
Bonjour, Yves Cavinert, Saint-Etienne. J'ai été militant vert pendant une dizaine d'années et j'aimerais avoir une réponse. Qu'est-ce que vous pensez du soin palliatif qu'est le développement durable? C'est très sérieux comme question. Tout le monde en parle maintenant et c'est dans la bouche de tout le monde. Et est-ce que c'est un baume au cœur en attendant une décroissance rapide, ou est-ce que c'est les nouveaux avatars repris par une gauche et une droite bien pensante?
La réponse est dans la question. Si c'est un soin palliatif, ça n'arrêtera pas la mort, ça la rendra plus douce.
Et encore.
Si l'on accepte la décroissance...
Vous vous présentez, s'il vous plaît.
Pardon ?
Vous vous présentez, s'il vous plaît.
Olivier Toffin. Si l'on accepte la décroissance, ça n'est pas seulement supprimer son frigidaire, sa télévision ou encore la climatisation, c'est également accepter une désindustrialisation, donc une baisse massive des transports, des industries. Et à ce titre, est-on prêt à renoncer au confort auquel nous sommes habitués aujourd'hui? Donc pas seulement un confort matériel, mais également, je dirais, une absence de douleur et un recul de la mort. C'est-à-dire, si demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, après une décroissance, je vais chez le dentiste, est-ce que j'accepte de me faire arracher une dent sans être anesthésié? Est-ce que j'accepte de faire remonter le taux de mortalité infantile? C'est une question, c'est pas du tout une provocation, c'est une question que je me pose.
Qui veut répondre?
Oui, enfin, c'est pas une réponse, hein, c'est une réaction. Je crois que très souvent, on est dupe du discours dominant. On fait comme si la consommation avait toujours existé. Et comme si la société de consommation, c'était simplement le fait de consommer plus qu'avant. Alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. C'est un autre rapport qui a été établi aux objets. Prendre une image toute simple, on ne consomme pas un balai-brosse. C'est-à-dire que la consommation renvoie aussi d'abord à certains types de biens. Et il ne s'agit pas avant tout de renoncer au confort, c'est retrouver un autre confort. Quel type de confort veut-on? Notre société, elle n'est pas si confortable que ça. Je voudrais simplement citer deux rapports. L'un de l'Académie nationale de médecine montrant qu'en France, mais je dirais que ce n'est pas seulement en France, un jeune sur sept souffre aujourd'hui de pathologie mentale. Et celui de l'Académie nationale de médecine montrant qu'en France, on est le meilleur élève des États-Unis et qu'un jeune sur cinq souffre d'obésité. Donc que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, il n'y a pas de confort dans notre société. On a tout simplement des sortes de béquilles identitaires ou des béquilles qui nous font croire qu'on accède au confort. Donc il est évident que le projet de décroissance, à mes yeux, ne vise pas à revenir à l'arrachement des dents sans anesthésie.
Non, elle vise au contraire à ce qu'en consommant moins, on s'abîme moins les dents. Parce que, en fait, c'est ça l'idée. Ben oui, évidemment. Dans une certaine mesure, la médecine engendre la maladie.
Oui, mais il y a quand même... Moi, je voudrais quand même... Je ne sais pas qui peut répondre à ça, mais je trouve qu'il y a une question importante là qui a été posée sur, par exemple, retourner à un taux de mortalité supérieur. Alors moi, j'aimerais bien avoir des éléments de réponse là-dessus. C'est une question que je me pose, en fait, depuis un certain temps. Comment sont faits les indicateurs d'espérance de vie? Est-ce que véritablement on est sûr qu'aujourd'hui on vit mieux plus longtemps, que tout le monde vit plus longtemps? Je ne sais pas. Si quelqu'un a un élément de réponse, vraiment, ça m'intéresserait.
Je pourrais dire quelque chose?
Oui.
Non, juste très vite, parce que vous avez évoqué la notion de temps, là. Le fait de... Chaque fois, effectivement, qu'on pose le problème de la décroissance ou d'une régression, c'est retourner en arrière. Et vous avez donné un exemple. Mais non, nous vivons dans une idéologie du temps linéaire et on ne peut se poser que par rapport à une histoire passée. Mais non, on va quelque part. On ne sait pas où on va, mais on y va, mais on va quelque part. Et le temps passé, c'était une autre histoire, c'était un autre monde. Donc il faut surtout se garder de ce genre d'images qui sont puisées dans un imaginaire fondé sur une histoire déterminée, déterministe, linéaire, etc. Vous retombez dans l'idéologie du progrès que je disais tout à l'heure.
Alors, oui. Moi, je voudrais dire qu'il y a déjà un groupe dans les pays industriels qui vit en termes de décroissance, ce sont les vieux et les vieux actifs. C'est-à-dire que nous avons raccourci notre champ du temps puisque la mort est de plus en plus proche. Nous avons raccourci l'espace parce que nous marchons moins vite. Il est évident que nous sommes dans la lenteur et la frugalité. Par contre, nous avons encore gardé pour la plupart notre intelligence à part Alzheimer. Nous pouvons créer justement un autre rapport aux autres. Nous pouvons devenir créatifs dans tout ce bassin d'emploi que représentent les gens qui peuvent penser, créer, s'amuser, être conviviaux ensemble, recréer du lien social sur leur ville. Ces gens-là ne sont pas l'objet d'intérêt des économistes, et je le regrette. Il faudrait qu'un laboratoire d'économistes sociaux, je pense que ça existe, se penche sur le sort des vieux actifs. Parce qu'il y a un œil social qui fait des vieux un objet de compassion et de sollicitude. Au lieu de se dire qu'ils sont 30% les gens de 60 ans sont 30% de la population, vont donc être un électorat extrêmement important. Alors je rapprocherai aussi, c'est un monde de femmes. Parce que vous mourrez, je m'excuse, à partir de 70 ans, il y a 5 fois plus de femmes que d'hommes, 80 ans, 7 fois plus de femmes que d'hommes. Et il est extrêmement intéressant de voir cette civilisation des vieux menée par des femmes avec des valeurs féminines. Parce que je trouve que ces civilisations de technologie sont parfaitement mâles. On a parlé très longtemps... de l'arrivée des sciences avec les dieux monothéistes, je suis complètement d'accord. On oublie de se pencher sur les 35 000 ans où ça n'était pas un dieu unique, mais des déesses pour la plupart. Et il est évident qu'on vivait sous une autre civilisation. Et ça, ce sont des études qui sont très très peu faites. Et c'est dommage, parce que les vieux sont quand même aujourd'hui l'avant-garde éclairée.
Bernard Guibert, ma question est toute simple, c'est de savoir qui fait les choix des techniques. Alors j'explicite un petit peu, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une illusion à utiliser un schéma anthropomorphique pour penser qu'une civilisation c'est comme un individu humain qui à un moment donné fait le choix d'aller dans telle et telle direction technique plutôt que telle autre. Dans notre société, je pense que c'est une illusion même qui politiquement est presque criminelle de nous inviter tous comme individus à faire dans notre coin, si j'ose dire, des choix techniques qui iraient à rebours d'une espèce de pression irrésistible d'ensemble qui fait que par le biais des mécanismes automatiques de l'économie, en fait, il y a des milliards d'êtres humains qui font des choix plus ou moins inconscients de techniques qui vont dans le sens de la course au progrès technique. Donc je trouve que considérer que nous sommes à nous tout seuls, individuellement, dans notre coin, détenteurs d'une espèce de volonté de toute puissance technologique est une illusion assez folle et en fait criminelle sur le plan politique.
J'ai pas compris si c'était si l'intention criminelle elle était celle de l'Occident ou si c'est criminel de ma part de dire ça de l'Occident. J'ai pas compris.
Je pense que c'est nous qui sommes irresponsables politiquement de penser, de propager l'illusion que nous pouvons enrayer tout seul dans notre coin, comme des David, le Goliath de la civilisation technicienne. Enfin, c'est un peu de la provocation de ma part, évidemment.
Oui, mais cette civilisation technicienne, elle n'existe pas ailleurs que dans l'humanité. Nous sommes un ensemble d'individus qui vivent ensemble sur une planète et il y a des conflits, il y a des gens qui prennent parti, comme aujourd'hui dans cette salle, et puis il y a des résultats qui en sont tirés par les gouvernants et par les systèmes de domination. Je crois qu'il faut bien que ça commence quelque part, la contestation, et que si elle commence dans le centre qu'est l'Occident, elle n'est pas absente dans la périphérie. Les gens qui sont le plus contre le développement, on l'a vu à un colloque de l'UNESCO, il y a un numéro de l'écologiste là-dessus, ce sont souvent des gens du tiers-monde. Donc la contestation, elle prend des formes différentes sur la planète Terre, mais elle existe partout. Et la technologie de puissance, oui, c'est nous qui l'avons développée. C'est nous qui l'avons développée, mais elle peut être contestée en son cœur, comme nous le faisons aujourd'hui. Je ne comprends pas où est l'intention. Il y a l'intention criminelle de la société de puissance, bien sûr, l'intention colonialiste à d'autres époques, mais elle était contestée, cette intention colonialiste, et on peut contester cette idéologie de toute puissance par la technologie que nous avons aujourd'hui. Donc, je crois qu'il n'y a pas, on ne peut pas identifier une intention chez un individu, on ne peut pas identifier des groupes sociaux qui sont porteurs aujourd'hui, mais il y a des individus qui résistent, il y a des groupes sociaux qui résistent sans qu'ils soient vraiment identifiés sur l'ensemble de la planète et pas seulement dans le monde occidental.
François, Bruno.
Oui, moi j'aurais aimé dire là-dessus quelque chose. Simplement, c'est que cette question est imprégnée d'idéologie dominante, c'est-à-dire de cette idée que l'individu et en face d'une société dont l'évolution est inéluctable et qu'il n'y peut rien, même tout seul. Étant entendu, bien entendu, que tout seul, il y a un petit début, mais que c'est avec d'autres qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'idéologie dominante, l'idée que l'individu, dans ses actions isolées, n'a pas une relation politique. Ce que je fais tout seul est politiquement engageant. Et à partir de ce moment-là, l'individu seul qui commence à faire des actions du genre ne pas regarder la télé, fait quelque chose qui, à mon avis, est politiquement engageant. Je crois que c'est ça qui est très important. Pour prolonger la parole, j'en profite pour remercier Madame qui vient de nous apprendre une nouvelle très importante. Les vieux sont vivants.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une question très concrète.
Vous présentez, s'il vous plaît.
Je m'appelle Catherine. J'ai une question très concrète. J'espère que j'aurai une réponse aussi concrète. Je m'intéresse beaucoup au commerce équitable. Monsieur Ariès, dans son intervention, a été un peu ironique en parlant de la consommation militante. Et je voulais savoir comment vous trois vous positionnez par rapport au commerce équitable en tant que porte-parole de la décroissance. Merci.
Oui, alors j'avais été volontairement... de savoir par qui, comment ça a été produit et quelles sont les conséquences sur l'environnement. Donc ça, c'est, je dirais, un aspect très très positif. En revanche, il y a une dimension qui m'apparaît plus limite, c'est l'illusion de penser que le commerce équitable Je ne suis pas certain que le fait d'acheter, par exemple, un café équitable en France et de le consommer en France relève d'une stratégie de décroissance à partir du moment où ce café nous vient par avion. Oui. Voilà, c'est-à-dire que je crois que le commerce équitable, c'est un bon élément de prise de conscience, que ça permet effectivement de réinjecter, je dirais, du jugement dans l'acte de consommation. Mais qu'en même temps, il ne faut pas trop s'illusionner sur ce que, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire d'ailleurs, hein, mais sur les capacités de ce mouvement.
Oui, alors on pourrait peut-être préciser l'idée suivante, c'est que quand un rapport d'échange est inégal, il faut cesser de commercer. C'est ça la liberté. Ne pas entrer en relation de dépendance avec des entités dans lesquelles on est systématiquement mis en minorité ou en état de faiblesse. C'est de ce point de vue-là que le commerce avec un certain nombre de pays du tiers-monde a été une catastrophe pour eux. S'ils étaient restés en autarcie depuis 50 ans, ils n'en seraient peut-être pas dans l'état d'insuffisance alimentaire dans laquelle ils sont.
Je vais aller plus loin dans ma réponse. Il y a eu tout un débat, il y a quelques années, sur le commerce équitable par rapport à la fabrication des tapis par des enfants. Je crois que là, il y avait deux positions possibles. Il y avait celle qui visait à dire, eh bien, essayons de garantir, je dirais, les conditions les moins monstrueuses possibles aux enfants et mettons un label. Puis il y avait une autre position qui aurait été possible, c'était de dire tout simplement, et ça avait été proposé par des associations de juristes démocrates à l'échelle internationale, faisons une loi sur le même type que la loi qui punit les crimes pédophiles commis à l'étranger, y compris en France. C'est-à-dire qu'on aurait très bien la possibilité de dire, chaque fois qu'en France, on va commercialiser un tapis fabriqué par des enfants, eh bien, l'industriel qui commercialise sera poursuivi. Et là, on aurait un autre élément.
Bonjour, Hervé René Martin. Je trouve qu'on a évacué un peu rapidement la question provocatrice de se faire arracher les dents sans anesthésie. Je vais vous donner je vais l'illustrer. Moi, j'ai un frère qui est à peu près mon âge, qui n'a jamais eu une seule carie dentaire. En plus, il est prothésiste dentaire, vous voyez, c'est un peu. Mais il fait du cholestérol. Voilà. Et moi, je ne fais pas de cholestérol, mais je me suis déjà fait arracher une dent. Et je veux dire que là, je pose la question de qui va arbitrer. Parce que si on développe cette histoire, est-ce qu'on va retourner en arrière et se faire arracher les dents sans anesthésie? On va s'apercevoir que tout ce confort dont nous bénéficions, y compris dans le domaine de la santé, il s'étend à chacun de nous et il s'étend à tous les domaines. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on parle du génie génétique, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, alors je ne veux pas d'enfant handicapé, oui, mais je voudrais un enfant qui soit plus performant et qui... Qui va faire cet arbitrage? C'est-à-dire, je vous renvoie au livre de Théodore Kaczynski, je suis étonné qu'il ne soit pas sur la table, en bas, la société industrielle et son avenir. C'est-à-dire, sur le phénomène de reproduction de cette société-là, nous sommes en train de nous créer des besoins, dont nous sommes, on a parlé ce matin, des désirs, des besoins que des tas de gens sur la planète n'ont pas, parce qu'il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se faire arracher les dents avec des anesthésies aujourd'hui sur la planète. Nous créons ces besoins, nous en créons de plus en plus. Et au bout d'un moment, qui est-ce qui arbitre entre les besoins de chacun de nous? Voilà. Une dernière chose pour terminer. On a parlé ce matin des gaz à effet de serre. On sait que les gaz à effet de serre sont dus en grande partie à la circulation automobile. Et puis il y a 2 ans, je crois, c'était encore le gouvernement Jospin, quand le prix de l'essence a augmenté, il y a eu quelques millions de Français qui ont été dans la rue pour demander une baisse du prix de l'essence. Voilà. Et donc le gouvernement a accepté de baisser les taxes sur le prix de l'essence. C'est-à-dire... Quel est l'arbitrage à ce niveau-là? Et je crois que moi, je ne voudrais pas qu'on évacue cette question. Comment est-ce que nous allons arbitrer entre nous de savoir ce que nous allons abandonner? Voilà.
Bonjour. Ce matin, on m'a expliqué qu'on allait dans le mur. Enfin, j'avais déjà quelques craintes là-dessus. Et alors, on peut chipoter sur la vitesse à laquelle on y va, quelle distance il est, mais il semble que beaucoup de gens soient d'accord sur le constat. Cet après-midi, on nous explique comment la culture et l'idéologie faisaient que cette catastrophe qui nous arrivait dessus était de l'ordre de l'impensable. Un petit peu comme il était impensable avant le 11 novembre que des avions viennent s'écraser sur des tours. Un peu comme il était impensable qu'un bateau comme le Titanic coule en heurtant un vulgaire iceberg. Et j'ai l'impression, cet après-midi, contrairement à mon collègue qui se sentait très mobilisé par vos discours, que je suis sur le Titanic, que certes, il y a quelques gens à la vigie qui sont réunis à Paris, à Lyon, ici, dans cette salle, qui voient l'iceberg, qui voient le bateau, et disent « on va se le taper, c'est inéluctable », et qui essaie de trouver ce qu'on peut faire. On va voir le capitaine, il dit « pas de problème, vous inquiétez pas, au contraire, ça ne peut pas se produire, on va activer les machines ». Moi, j'ai tout à fait le sentiment d'être dans ce bateau. On y va vite, on y va droit, et mes solutions individuelles à moi, quelles qu'elles soient, me semblent d'un dérisoire absolument radical. J'espère que l'espèce humaine va subsister, mais ce n'est pas celle qui est dans le bateau. Hein, on gagnera parce qu'on est les plus faibles ne sont pas dans le bateau, et j'espère pour eux qu'ils pourront gagner.
Oui, Bruno Clémentin. Donc, je reviens, pas pour compléter, mais pour apporter un éclairage sur la question avons-nous le droit de dire aux autres, quel est notre droit de prétendre dire aux autres comment il faudrait s'organiser, par exemple en prônant la décroissance. Alors, comme c'est un reproche qui nous est fait, pas celui-ci, mais vous allez voir pourquoi je prends cette réflexion, justement, c'est le reproche qu'on nous dit, c'est le reproche, c'est vous voulez encore la décroissance des pauvres, vous voulez la décroissance de ceux qui n'ont rien. Il faut bien comprendre, et on ne peut pas le mettre ni dans le titre, ni dans le sous-titre, parce que sans ça, on fait tout un livre rien qu'avec l'énoncé. La décroissance s'adresse bien à ceux qui surconsomment, qui ont surconsommé et qui s'engagent à surconsommer. Donc quand on peut lire, par exemple, que quelqu'un qui a dit, et je préfère ne pas le nommer pour ne pas lui faire de tort, qu'il ne faut pas de la décroissance, mais de la croissance douce, ou de la croissance molle, ou de la croissance ralentie. Non, il faut de la décroissance, et évidemment, cette décroissance ne va pas s'appliquer à ceux qui n'ont rien, ou qui n'ont même pas le minimum. Donc, nous prétendons bien dire qu'il faut de la décroissance, et nous ne le disons pas à ceux qui n'ont rien, nous le disons déjà à ceux qui ont trop, et nous faisons partie de ces gens-là. Encore une fois, même si notre niveau de vie est largement inférieur à celui des Américains, notre niveau de vie et celui des Américains est bien ce qui fonde le pillage dans le reste de la planète depuis 500 ans. À hauteur, par exemple, dans un continent comme l'Afrique, de 3 pestes, 4 épidémies, 5 choléra et 5 guerres mondiales tous les 100 ans, c'est-à-dire une ponction de presque 500 millions d'êtres humains. Donc il faut bien voir que ce qu'on appelle, nous, notre croissance, elle est fondée sur un pillage et un massacre généralisé du reste de la planète. Il faut bien en prendre conscience. Donc nous disons à nous et ceux qui nous organisent en vie collective et sociale ici et maintenant, il faut décroître. Et simplement, pour une petite aparté qui est, disons, un peu plus ludique, n'ayons pas peur d'être des David, parce que dans l'histoire telle que je la connais, c'est lui qui a gagné. Donc vraiment, n'hésitons pas à être des David. Et en ce qui concerne, pour revenir sur le commerce équitable, oui, le commerce équitable, c'est donc ici et maintenant. Le commerce équitable, c'est de faire en sorte qu'on repasse de 600 000 exploitations agricoles à 7 millions. Puisque c'était l'état de nos pères et nos grands-pères, c'est pas si loin que ça. Donc nous avions chez nous 7 millions d'exploitations agricoles. C'est-à-dire que nous voyons comment était produite la nourriture. La nourriture était aux portes des villes. On savait ce que c'était la production de nourriture. Et on a parlé tout à l'heure de la délocalisation à propos de la machine à vapeur et autres, et de l'asservissement dû à des techniques et quelque chose qu'on utilise, par exemple l'électricité qui vient ici de la centrale nucléaire de Saint-Alban, qu'on n'avait aucun moyen dessus. C'est pareil pour la nourriture. On ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir de prégnance, on ne peut pas utiliser quelque chose qu'on ne voit plus produire et on ne sait plus qui les produit. Donc le commerce équitable, c'est pas avec le reste de la planète. On n'a pas à aller dire aux Andins ce qu'ils doivent cultiver, parce que ce qu'ils doivent cultiver, c'est comme nous, c'est d'abord les cultures vivrières. Et chez nous, il n'y a plus de culture vivrière, puisque la moitié du blé qu'on produit en France, il est vendu ailleurs. Donc on fait la même chose. Et en plus, nous, on le fait d'une manière profondément inéquitable, puisqu'on détruit les marchés qui pourraient s'instaurer ailleurs. Mais donc le commerce équitable, oui, c'est ici et maintenant.
intervenir.
Oui, je voudrais rebondir sur deux ou trois questions qui ont fusé dans la salle concernant les choix qui seront à effectuer. Bien sûr qu'il y aura des choix à effectuer, et c'est pour ça que tout discours sur la décroissance est aussi un discours démocratique. C'est-à-dire qu'il y aura des choix de société, il y aura des choix politiques. En matière de santé, est-ce qu'il faut financer en priorité des IRM ou est-ce qu'il faut développer la médecine scolaire ou la médecine du travail en matière de fiscalité? Alors je pense qu'on serait tous d'accord pour augmenter les taxes sur l'essence, mais par exemple, que penser de la TVA? Jusqu'à présent, je dirais, tout le bagage traditionnel, c'est de dire la TVA, c'est un impôt socialement injuste. Oui, mais c'est aussi un impôt qui frappe la consommation. Donc, est-ce que, collectivement, politiquement, on a apporté, c'est une question, hein, est-ce qu'on a apporté une revendication du type? Non, il ne faut surtout pas revendiquer la diminution de la TVA. On va avoir des choix politiques à effectuer. Sinon, nous serons simplement, et ce n'est pas du tout une façon de le dénigrer quand je dis ça, mais sur le versant des solutions individuelles, qui sont tout à fait respectables, mais qui globalement ne concerneront, ben, je dirais, que ben, les 20% que de la société qui se portent bien. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que développer une stratégie de décroissance lorsqu'on habite dans une ZUP à 30 km de son lieu de travail? On va bien avoir des réponses collectives à produire, à fournir. Donc c'est là-dessus où on va avoir des choix, et des choix difficiles, pas comme tout choix.
Tu employais tout à l'heure le mot de jugement qui me paraissait très important. Il s'agissait de revenir à des jugements.
Oui, à propos de ce qui a été dit sur le commerce équitable, et ce qui a été proposé, ça allait plus loin, à propos de l'invisibilité de notre puissance, enfin notre puissance qui est invisible à nos yeux, comme la centrale nucléaire, c'est que dans l'idée de localisation, c'est aussi revenir à la claire conscience des conditions de notre confort. Et quand moi je me rappelle encore, chez mes parents, le bougnat arrivait et chargeait sur le dos le charbon, il laissait des traces. Quand vous deviez couper votre arbre et mettre dans la cheminée le bois, c'était un effort que l'on vous demandait. Donc il y avait, mais c'est très récent, le bougnat et le charbon de bois, c'est 1950. N'est-ce pas? Donc c'est très récent. Il y avait encore quand même une expression locale des conditions de notre confort. Et effectivement, on n'était pas à la bougie. On avait déjà l'électricité. Donc vous voyez bien que ce qu'on demande, enfin ce qui me semble sortir derrière cette idée de décroissance, c'est pas revenir en arrière, c'est faire autre chose. Et par exemple, récupérer le droit sur nos technologies, le droit sur notre puissance, de telle façon qu'on décide de ce qu'on fait avec notre puissance.
Donc je reviens sur cette question de savoir, puisqu'on a beaucoup parlé en fait du problème de rejet viscéral qu'il y a dans la société, de la terminologie même décroissance. Et moi ce qui me gêne, c'est que effectivement lorsqu'on dit décroissance, on ne dit pas décroissance de quoi? Est-ce que c'est décroissance du bonheur? Est-ce que c'est décroissance de la qualité de vie, de la santé, du savoir? Et à mon avis, de réduire, de dire décroissance, c'est quelque chose qui pose un vrai problème. Il faut dire de quoi effectivement. On est dans une logique d'accumulation matérielle, sur laquelle il faut revenir. Mais décroissance tout court, c'est vraiment donner toutes les branches pour se faire taper dessus. Mm-hmm. Parce que tout le monde va sauter dessus, et même lorsqu'on parle de progrès, moi je suis d'origine indienne, j'ai vécu en Afrique, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'il n'y a que la société occidentale qui a eu cette démarche de progrès. Non, elles ont toutes eu les démarches de progrès, et même les sociétés qu'on dit primitives. Il ne faut pas croire que si dans ces sociétés-là, il y avait des médecines traditionnelles, c'est tout à coup comme ça, ils ont eu l'illumination et les médecines traditionnelles sont arrivées. Non, la démarche de progrès, et même d'un point de vue, on va dire, scientifique, pas aussi structuré qu'on l'a dans nos pays occidentaux, a toujours existé. Donc, il ne faut pas assimiler décroissance à refus du progrès, arrêt du progrès, parce que cette course au progrès n'est pas bonne. Et je pense que c'est très important, parce que ça explique une bonne partie du rejet que des gens ont par rapport à ça. Et je finirai juste en disant, je pense que dans ce séminaire, ça aurait été bien s'il y avait des gens, moi je ne dirais pas de la périphérie, enfin du tiers-monde, enfin de l'autre société, de la société asiatique, indienne, chinoise, d'Amérique latine, pour qu'ils donnent leur point de vue sur c'est quoi la décroissance pour eux, de leur point de vue, est-ce que ça ne les concerne pas, est-ce qu'ils n'ont pas justement dès maintenant à apprendre à décroître, même s'ils partent de très bas, mais peut-être qu'il faut déjà apprendre à décroître pour sortir des plis dans lesquels nous sommes rentrés et dans lesquels on n'arrive pas à sortir.
Merci.
Alors, il y a François Brune.
Je voudrais dire un petit mot simplement au niveau terminologique. Si on emploie le mot décroissance, c'est parce qu'on est piégé par l'emploi qui est fait dans l'idéologie dominante du mot croissance. Justement, le mot croissance a réduit l'idée d'amélioration à quelque chose d'uniquement quantitatif qui est mesuré notamment par le PIB. Donc, le problème, c'est que nous, quand nous parlons de décroissance technique et économique, pour nous, c'est synonyme de croissance au sens de l'amélioration de la société. De la même manière pour le mot progrès. Le mot progrès lui-même, il a été lesté par l'idée quantitative d'une avancée dans le temps et dans l'espace. Alors que ce que vous dites vous-même, en ce qui concerne la médecine traditionnelle, ça prouve qu'il y a eu un sens de l'amélioration. Et nous, et le problème, c'est qu'on est piégé, parce que le mot progrès, en fait, il est essentiellement, dans l'esprit de ceux qui l'emploient, synonyme de progrès technique, d'où l'erreur. Voilà. Donc le mot, enfin, ouais, simplement pour la terminologie.
Je voudrais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure, parce que je n'ai pas eu de réponse. Enfin, partiellement, petit à petit. Depuis quelques années, c'est quand même assez récent. C'est pour ça que tout à l'heure, en me présentant, j'ai dit que j'ai été militant des Verts pendant 10 ans. Je suis toujours militant écologiste, pas chez les Verts. La question que je pose, c'est, on nous a sorti le développement durable. Moi, je crois à la décroissance. Le mot me gêne pas. Je comprends, comme tous les gens qui sont ici, ce que ça veut dire. Et comme beaucoup à l'extérieur, hein, il suffit de lire la presse, s'y intéresser. J'aimerais savoir, par contre, d'une manière plus concrète, je ne pense pas qu'il y ait des convaincus dans cette salle, mais il y a au moins des gens qui sont très intéressés. C'est Paul Ariès a employé enfin le mot politique, le mot magique est, enfin, a été prononcé. C'est concrètement, pour pouvoir arriver effectivement à partager cette notion et cette envie de décroissance, parlons déjà d'envie, ça sera déjà bien, comment on le concrétise politiquement? Alors je vais être très simple, puisque moi je suis un militant politique, je dis par exemple, il y a des prochaines séances l'année prochaine, comment les personnes qui sont... je ne parle pas dans la salle, parce que c'est pas une question, mais comment peut-on faire passer le concept de décroissance au même titre qu'un certain nombre de personnes qui sont issues des Verts ont pu faire passer le concept de développement durable, qui est une hérésie comme le commerce équitable, pour moi.
Justement, je voulais un petit peu intervenir sur le mot durable.
Et d'abord, vous vous présentez.
Hervé Laprairie. J'ai été très investi dans les mouvements, dans la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique, donc j'ai pas mal voyagé. Et ce que je voulais dire, justement, c'est qu'en 1977, une Anglaise, une lady, Lady Eve Balfour, a introduit le concept de durabilité. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas du tout le mot développement. C'était un concept durable et que je trouve extrêmement intéressant et qui rejoint la plupart des préoccupations qu'on a aujourd'hui dans un débat comme ça. Et finalement, il a été repris à Den Bosch, à Rio, par des politiques, maintenant par la gauche, la droite, absolument par tout le monde, un peu de n'importe quelle manière, mais surtout en collant le mot développement pour complètement l'atténuer, enfin le tiédir complètement. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on choisit le terme de décroissance par opposition à ce développement durable où on fait passer un peu n'importe quoi avec ce mot développement. Mais bien que je sois sous le charme de tout ce qui est dit par rapport sur le thème de la décroissance soutenable, je trouve le terme un peu malheureux parce que pour moi il s'agit d'une, j'aime pas le mot gestion non plus, mais d'une gestion soutenable, d'une gestion durable à trouver, donc je n'ai pas une proposition de meilleur vocabulaire, mais je trouve quand même le terme malheureux parce que c'est évident qu'on a à décroître tout un tas de consommations basées sur des énergies non renouvelables, hein, sur une surconsommation, etc. Là, j'adhère complètement à tout ce qui a été dit, mais en même temps, on a à faire croître des tas de domaines. Quand on parle certains ont parlé là, d'autres formes d'agriculture ou de réinstaurer une certaine paysannerie, une certaine solidarité entre les générations, de raisonner à plus long terme, etc. Il y a plein de valeurs à faire croître et recroître. Et quand on réfléchit, j'ai été dans une soixantaine de pays, je sais bien qu'il y a plein de choses à faire croître dans les autres pays. Il y a peut-être plus de décroissance à faire ici et plus de croissance ailleurs. Mais le problème, ce n'est pas croissance ou décroissance, c'est... qu'il y ait un peu plus du règne du bon sens dans un sens de durabilité et de long terme. Quoi.
Bonjour, Marielle Picard. Je souhaite revenir sur la question de la peur, des rages de dents et de la mortalité. D'abord, on n'a pas tellement parlé d'une notion qui me semble très importante, qui est la morbidité du monde moderne et des hommes modernes. Quand je vois par exemple au cinéma les publicités ou anti-publicités qui parlent de la cigarette, quand on voit tout ce qu'il y a dedans et qu'il y a toujours des personnes pour en fumer, on peut se poser des questions. Et à la limite, je pense que la rage de dents, ça participe de la même chose. On souhaite se détruire dans une certaine jouissance de la destruction, mais se détruire quand même. Et moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le risque de faire confiance en la vie. Et la question est de savoir quelle vie nous voulons. Je pense que les peuplades primitives étaient dans un rapport beaucoup plus de satisfaction avec la vie que nous actuellement. Aujourd'hui, on ne sait plus vivre, mais on ne sait plus non plus naître ou mourir. Puisqu'on parlait de la mortalité infantile tout à l'heure, actuellement dans la Nièvre, on travaille sur un projet à l'échelle du département qui consiste à proposer une autre mallette autour de la naissance. Parce qu'il y a des mallettes qui sont proposées à la maternité qui sont bourrées de publicité pour l'enfant et la mère, et que par contre, dans des zones rurales, par exemple, il n'y a aucune méthode d'accouchement pour une naissance non violente, il n'y a aucune façon d'aider le père à trouver sa place dans la famille qui se constitue, et on n'accueille pas l'enfant comme un citoyen. Je pense donc qu'il faut donner envie aux autres de vivre autrement. Et ça, la théorie doit se faire par l'exemple, par notre façon de vivre et d'être. Parce que ce qui est certain, c'est que tout le monde vit dans la frustration du monde moderne, mais c'est pas non plus toujours dans la forme d'agressivité que prennent nos mouvements. Je vois, quand on est dans les zones très rurales, on est quelques écolos, on est stigmatisés, on devient très vite agressif et aigri. Il est important d'arriver à construire des relations humaines qui donnent envie de vivre autrement. Et ici, par exemple, je souhaite vous soumettre quelques suggestions. D'abord, je suis assez étonnée de voir la disposition dans la salle, parce qu'on aurait pu imaginer que dans ce genre de salle, on puisse être en rond, en ovale, qu'il y ait aussi plus de femmes à la tribune, bien que je sois contente que ce soit une femme qui ait pris la parole en premier. Et j'aurais souhaité savoir aussi...
J'aurais même le dernier mot.
Pardon ?
J'aurais même le dernier mot.
Et j'aurais souhaité savoir aussi qui parmi vous vit vraiment, entre guillemets, ces utopies concrètement, et en particulier, qui vit à la campagne ici. Merci.